À Rencontre spirituelle aujourd'hui, une émission à la mémoire de Thérèse de Lisieux et de ses derniers jours. Thérèse de Lisieux et l'Eucharistie, je vous avais déjà raconté le 30 septembre la mort de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à l'occasion du 100e anniversaire justement de son décès, c'est-à-dire de son entrée au ciel, devrait-on dire, de cette grande naissance, de cette grande sainte au ciel. Et alors aujourd'hui, il sera question de son amour de l'Eucharistie, son amour de la communion. Et c'est très beau, très très beau ce qui est dit par le père Jouy Guillet dans un ouvrage qui est paru dans les annales de Sainte Thérèse. Si on veut comprendre la vie eucharistique de Thérèse de l'Enfant Jésus, nouveau docteur de l'Église, bien il faut la situer évidemment dans la vie chrétienne telle que Thérèse l'a vécue à son époque il y a plus de 100 ans. C'était autre chose qu'aujourd'hui. Il faut connaître en particulier les deux courants là qui continuaient, qui se perpétuaient à la fin du 19e siècle et que nous avons connu, nous, les gens plus âgés. C'est un reste de jansénisme. C'est aussi le mouvement de la réparation. Il y a des sœurs réparatrices, Marie réparatrice. Puis la grande dévotion au Sacré-Cœur qui était allée en s'amplifiant toujours. Et ces mouvements se répandent par la prédication, évidemment. Puis, quand on enseigne le catéchisme, puis qu'on parle un peu partout, puis il y a les livres spirituels, toutes sortes de livres là-dessus. Et l'impact de tout ça n'est pas le même dans chaque diocèse, ni dans chaque foyer. Pendant son enfance et sa jeunesse, Thérèse a vécu, elle, avec ses parents et ses sœurs, ses quatre sœurs, là. Puis elle a vécu aussi au pensionnat des bénédictines de Lisieux, je vous ai déjà raconté ça, et l'influence de la famille était très, très importante, de beaucoup. C'était prépondérant, on peut dire. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que, si on veut savoir quelle est l'histoire un peu de ce mouvement autour de la pratique de la communion, je vais vous résumer ça en deux mots. Ça sera pas long. Je pars de loin, par exemple. De 1215, c'est le 4e concile de Latran. Mais saviez-vous que ce concile de Latran était favorable au moins à la communion pascal des enfants parvenus à un minimum de discrétion. C'était déjà un début, ça. Comme on communiait, nous, à notre époque, quand on avait 6 ans à peu près, même 5 ans parfois, 6 ans, 7 ans, un minimum de discrétion, c'est-à-dire de l'âge de raison, comme on disait. En 1562, donc, 350 ans plus tard, le concile de Trente souhaite que les fidèles communient toutes les fois qu'ils assistent à la messe, ce qui était tout nouveau, hein. Je vois encore des gens qui ne communient pas aux messes, sauf de temps en temps. Ça existe encore aujourd'hui. C'est rare, ça existe. Et les directives, donc, du concile de Trente sont devenues, peu à peu, lettres mortes. Dans l'ensemble de la chrétienté, on a vu beaucoup de gens qui cessaient de communier tout en assistant à la messe. On voit ça même dans des églises catholiques de rite arménien. J'ai assisté à ça à Paris. La plupart des gens ne communient pas. Ou du moins ne communiaient pas il y a 15-20 ans. Au 16e siècle, il y a le jansénisme. Le jansénisme qui insiste d'une manière absolument exagérée sur le respect que la sainteté du Christ nous impose, lui qui est présent dans l'Eucharistie, le grand respect. Mais on exagère. Il faut avoir du respect et aujourd'hui peut-être qu'on n'en est pas assez. On disait chez les jansénistes que Dieu est si grand que les dispositions que peut avoir un homme ou une femme pour recevoir la communion. Ça pouvait arriver, ça, rarement. Rares étaient les gens qui avaient cette disposition-là. Alors, ça faut creuser un fossé entre l'Eucharistie et le chrétien. Un enfant était, dit-on, incapable de s'y préparer convenablement. Puis les adultes pécheurs, ben eux, ils devaient pas recevoir fréquemment la communion. Non, non, ils devaient se tenir loin. Rester dans sur leur chaise, comme on a en France, en Europe, en Italie, ou dans leur banc, comme on a ici, plus confortable d'ailleurs. Et cette mentalité va s'infiltrer profondément dans l'esprit des fidèles. Ça va achever de faire oublier tout ce que l'Église a demandé de faire auparavant, comme au Concile de Trente, de communier à toutes les messes. Au 19e siècle, donc, on arrive au temps de Thérèse de l'Enfant Jésus. Il faut attendre la 11e, la 12e année avant d'être autorisé à s'approcher de la Sainte Table. Hein? On voit ça dans la vie des saints que je vous raconte, les saints de cette époque. L'évêque, dans son diocèse, fixait l'âge, lui, pour l'admission des enfants à la première communion. Quand la première communion a été accordée, la fréquence des communions suivantes est mesurée avec parcimonie. On les amène pas souvent. C'est jusque dans les séminaires puis les communautés religieuses que la communion quotidienne est une exception, très rare. C'est surprenant, hein? Oui, les religieux, les religieuses communiaient pas tous les jours. Ils étaient influencés par les hautes autorités telles que Saint François de Sales et même Saint Alphonse de Liguérie. Et la plupart des théologiens puis des confesseurs, bien, ils s'arrangeaient pour que le nombre de communions le soit dosé selon le degré de vertu que eux supposaient dans les âmes de ces bonnes sœurs et de ces bons frères et de ces bons religieux. Puis les supérieurs de communauté de femmes, là, s'attribuait, elle, le droit d'interdire même l'Eucharistie pour des petites infractions à des lois, des choses idiotes, des petites lois religieuses, même s'il n'y avait aucune faute, même vénielle, il n'y avait rien. La supérieure défendait de communier. C'était strict et janséniste. C'est cette séquelle du jansénisme avait pénétré dans les cloîtres et le Carmel de Lisieux, où est entrée Sainte Thérèse, n'avait pas échappé à cette espèce de maladie contagieuse. Thérèse a connu, dans ce domaine-là, des restrictions qui l'ont fait beaucoup souffrir. C'est pour ça que je vous en parle. C'est parce qu'elle a beaucoup souffert de ça. Le 17 décembre 1890, le pape Léon XIII, qui était un homme intelligent et brillant, essaie de briser, lui, les entraves accumulées par une foi janséniste absolument mal éclairée. Il dit, en ce qui concerne la permission ou la défense d'approcher de la Sainte Table, on dit que le pape décrète que ces permissions et défenses regardent seulement le confesseur ordinaire, sans que les supérieurs aient aucune autorité pour s'ingérer dans cette affaire, comme ces supérieurs là qui empêchent les sœurs de communier pour un rien. Puis celui qui aurait obtenu du confesseur l'autorisation d'une communion plus fréquente ou même quotidienne, sera quand même tenu d'en avertir le supérieur, c'est pour éviter, le pape veut éviter les frictions. Mais il veut faire avancer les choses, et dans certains cloîtres fervents, ces décisions n'ont pas toujours été entendues, comme dans le cloître de Thérèse. C'est seulement après la mort de Thérèse, oui, à peu près 7 ans plus tard, que le pape Pie X va émettre un décret en 1905, puis un autre en 1910, pour rendre au peuple de Dieu, comme on dit, à tous les catholiques, la liberté dans l'approche de l'Eucharistie. Pas une liberté totale, une liberté quand même. Et Thérèse était morte, évidemment, depuis, comme vous savez, 1897. D'autre part, la fin du 19e siècle a été marquée par toutes sortes d'événements politiques en Occident qui ont eu un grand retentissement. Le pape Pie XI perd les états pontificaux, là, malgré le secours d'une... pas Pie XI, Pie IX. Malgré le secours d'une petite armée, là, comme celle qui est partie de Montréal sous la direction de Mgr Ignace Bourget, comme je vous ai raconté il y a quelques jours, en vous parlant de Mgr Bourget, deuxième évêque de Montréal. Il y a aussi la France, à la fin du siècle dernier, qui est attaquée par les Prussiens, l'an 70-71. Alors, les catholiques considèrent facilement tous ces désastres comme une punition de Dieu. C'est Dieu qui punit, disent-ils. Alors, il s'engage dans des mouvements d'expiation, voyez-vous, je reviens au moment d'expiation, puis de réparation. Savez-vous que la basilique de Montmartre, que vous avez peut-être vue à Paris, était érigée par une volonté nationale française, là, d'expier? Puis tout ça, c'est pour ça qu'elle s'appelle la basilique du Sacré-Cœur, d'ailleurs. Parce que la dévotion au Sacré-Cœur, c'est une dévotion d'expiation, qui a été propagée, comme on sait, par... une visitandine de Paris le Monial, Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui a été béatifiée justement en 1864, à cette époque-là. Alors, il y a toutes sortes d'événements qui sont arrivés, puis finalement, on en arrive à dire que le but du Carmel est de former des victimes à l'amour. Puis les fondatrices du Carmel de Lisieux étaient venues du monastère de Poitiers en 1838 avec des idées comme celle-là. Cette idée générale sur la vie chrétienne en France, là, à la fin du 19e siècle, on faudrait l'approfondir, mais en tous les cas. Il suffit de voir quelle ambiance règne donc dans la famille Martin Qu'est-ce qui imprègne l'âme de la petite Thérèse Martin? Au foyer, là, dans la ville d'Alençon, puis à Lisieux, on sait que l'occupe une place privilégiée, l'Eucharistie. L'Eucharistie est au cœur. Hein? D'une manière générale, ça polarise la vie de M. Martin, puis Mme Martin, qui meurt très jeune, malheureusement, puis des cinq filles qui grandissent. Hein? La petite dernière étant Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse de Martin. La première communion de chacune de ces filles la constitue un événement majeur. Ça fait éclater soudain, on peut dire, le rayonnement de l'hostie. Plus tard, Thérèse fait un pèlerinage hein, avec des prêtres. Et pour elle, les prêtres, ce sont les pèlerins de l'absolu. Mais ce sont aussi des pèlerins qui voyagent avec elle dans ce pèlerinage. Ils vivent gaiement. Il semble oublier parfois la prière et l'effort, et ça, c'est une très grande souffrance pour Thérèse. Une autre souffrance qui vient de l'Eucharistie. Et cette adolescente, toute jeune, se fait une autre idée du sacerdoce. Elle écrit « Les âmes des prêtres, je les croyais plus pures que le cristal. » Elle n'a jamais connu un tel dépaysement. Elle qui ne pense qu'à aimer Dieu, à lui faire plaisir, à éviter les plus petites fautes. Alors l'étonnement de Thérèse nous aide à mesurer l'estime du prêtre, dans laquelle ses parents, les Martins, l'ont élevé, puis qu'elle veut le garder intact après ce qu'elle a vu au cours du pèlerinage. Elle écrit au ma mère, « Quelle est belle cette notre vocation, ayant pour but de conserver le sel, c'est les prêtres, destiné aux âmes. Cette vocation est celle du Carmel, ajoute-t-elle. » Puisque l'unique fin de nos prières et nos sacrifices est d'être l'apôtre des apôtres, hein? Parce que les apôtres, ce sont les prêtres. Il faut être donc l'apôtre des apôtres, priant pour eux pendant qu'ils évangélisent les âmes par leurs paroles et surtout par leurs exemples. Alors, quand elle entre au Carmel le 9 avril 1888, Thérèse Martin comprend le sens de la vocation, puis il inclut essentiellement le sacerdoce. Hein? Le premier cri de Thérèse se fait entendre le 14 juillet 1889. Elle écrit Céline à sa sœur, « Pendant les courts instants qui nous restent, ne perdons pas notre temps, sauvons les âmes, elles se perdent comme des flocons de neige, et Jésus pleure, et nous, nous pensons à notre douleur, la maladie de leur père, hein, M. Martin, sans consoler notre fiancé Jésus. Oh, ma Céline, « Vivons pour les âmes et soyons apôtres et sauvons surtout les âmes des prêtres. Ces âmes devraient être plus transparentes que le cristal. Hélas, combien de mauvais prêtres, de prêtres qui ne sont pas assez saints. Prions, souffrons pour eux, et au dernier jour, Jésus sera reconnaissant. Alors, nous lui donnerons des âmes. Céline, comprends-tu le cri de mon cœur ?» C'est un cri retentissant de la part d'une sainte, qui ressent profondément jusqu'au fond de son cœur une grande douleur. Elle pense aussi à un tabernacle qu'elle voit dans une église sans canopée, sans cette espèce de petite tente en tissu là, qu'on met par-dessus. Un vrai trou noir, elle dit, peut-être la retraite d'araignée, un ciboire si pauvre que je l'ai vu en cuivre. Et quoi pour le couvrir? Un chiffon sale, ne conservant plus la forme d'un voile de ciboire. Et dans ce ciboire, une seule hostie. Hélas, il n'en est pas besoin en dehors de Pâques. Puis, dans ces campagnes, des prêtres à gros grains, qui ferment leurs églises toute la journée. Et du reste, ils sont vieux et sans ressources et pauvres. Ô Thérèse, je suis resté plongé devant ce spectacle. Mon âme s'est déchirée en lambeaux. Et c'est sa sœur Céline qui lui répond. Alors, elles partagent tous les deux leur douleur. Elles la partagent à ce point que finalement, Thérèse dit « Céline, prions pour les prêtres, prions pour eux, que notre vie leur soit consacrée. Jésus me fait tous les jours sentir qu'il veut cela pour nous deux. » Alors, son amour de l'Eucharistie et se fait grandir en elle son amour pour les prêtres, un amour débordant qui lui fera souhaiter même d'être prêtre. Au moment où elle échange des lettres comme ça avec Céline, sa sœur, au sujet de la douleur qu'elle ressent devant certains prêtres qui ont perdu leur ferveur, elle se présente devant le délégué de l'évêque pour entrer au Carmel. comme les lois canoniques le prescrivent, il vient s'assurer évidemment des dispositions de la jeune Thérèse Martin, de la future novice, que la communauté désire admettre à la profession. Elle est déjà entrée au monastère, mais il faut qu'elle entre de façon définitive par la profession. Ce que je voulais faire au Carmel, je l'ai déclaré aux pieds de Jésus hostie. Dans l'examen qui précéda ma profession, elle dit, « Je suis venu pour sauver les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres. » Il serait difficile d'entrer plus directement puis plus profondément dans le projet de Sainte Thérèse d'Avila, la réformatrice du Carmel des siècles plus tôt, lorsqu'elle entreprit justement cette réforme. La correspondance de Thérèse, de toute façon, qui montre l'intérêt porté par cette toute jeune carmélite à la sanctification des prêtres, est riche de confidences puis d'appels jusqu'en 1890, puis une allusion en 1892, une autre en 1894. Puis ensuite, il faut attendre l'heure où deux missionnaires deviennent pour elle des frères spirituels. Elle va adopter deux missionnaires, tellement elle aime les prêtres. Elle les adopte dans le fond de toute sa vocation. Le manuscrit B, vous savez qu'il y a plusieurs manuscrits de Thérèse qu'on lui a demandé d'écrire. Dans le manuscrit B, elle nous révèle « Je sens en moi la vocation de prêtre ». C'est étonnant, hein? Au courant de l'année 1887, Céline entend Thérèse lui dire qu'elle s'attendait à mourir cette année. « Voici la raison qu'elle me donna au mois de juin, dit-elle, Céline. « Voyez-vous, le bon Dieu va me prendre à un âge où je n'aurais pas eu le temps d'être prêtre. Si j'avais pu être prêtre, ce serait à ce mois de juin, à cette ordination, que j'aurais reçu les saints ordres. Eh bien, afin que je ne regrette rien, le bon Dieu permet que je sois malade. Je n'aurais donc pas pu m'y rendre, et je mourrais sans avoir exercé mon ministère. » Elle se voit vraiment prête. Hein? Est-ce qu'on peut savoir ce qui l'attire si fort vers le sacerdoce? Hein? Toujours dans ce même manuscrit, elle nous suggère dans quelle direction il faut nous orienter. Elle dit « Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains, lorsqu'à ma voix tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes. Mais hélas, tout en désirant d'être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise, celui qui n'a jamais été ordonné prêtre, et je me sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du sacerdoce. » Alors, sans crainte, on peut croire que Thérèse, l'enfant Jésus, n'a pas désiré recevoir la consécration sacerdotale, pas désiré vraiment être ordonnée. Elle sait, elle admet, que le sacrement de l'ordre ne peut pas lui être donné. Mais ne pourrait-elle pas faire ce que font les prêtres, sans avoir reçu l'onction sacerdotale? Par exemple, porter Jésus dans ses mains. Elle aurait donc aimé ça qu'elle aurait aimé ça. Si son désir se borne à ce geste qui était réservé au siècle dernier, puis au début de ce siècle, à ceux qui sont prêtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aurait-elle été exaucée? Certains faits inclinent vers une réponse affirmative. Oui, c'est étrange. Comment ça? On raconte, si elle trouvait dans le corporal quelques petites parcelles de la sainte hostie, Thérèse manifestait une sainte allégresse. Ayant découvert un jour une assez grosse parcelle, elle a couru à la buanderie où était la communauté, puis elle a fait signe à ses novices de venir. Elle s'est agenouillée la première pour adorer notre Seigneur. Elle a remis le corporal. Hein? Le corporal, c'est un tissu carré. Elle a remis le corporal dans la bourse, une petite bourse dans laquelle on peut plier le corporal puis le mettre, là, remit le corporal dans la bourse et la fit baiser ensuite avec une piété touchante. Une autre fois, le prêtre, en lui donnant la communion, laissa tomber une hostie en dehors de la grille, parce qu'il communiait à travers une grille, les cloîtrés comme ça. Et sœur Thérèse l'a reçue dans son scapulaire. Le scapulaire, je vous l'explique pour les plus jeunes, là, c'est le morceau de tissu qui pend en avant comme un tablier, pend aussi en arrière. Elle me dit ensuite avec émotion, « J'ai porté l'enfant Jésus dans mes bras comme la Sainte Vierge. » Sœur Marie de la Trinité, c'est un autre fait. Un jour, je rencontrai Sœur Thérèse sous le cloître et son recueillement me frappa. Elle semblait porter quelque chose de précieux qu'elle abritait soigneusement avec son scapulaire. Au moment où je la croisais, elle me dit à voix basse, d'un ton ému, « Suivez-moi, je porte Jésus. » Elle venait de retirer de la table de communion la petite plaque dorée sur laquelle elle avait découvert une parcelle assez notable de la Sainte-Hostie. Je la suivis jusqu'à la sacristie, où, après qu'elle eut déposé son trésor, elle me fit mettre à genoux près d'elle pour prier jusqu'à ce qu'elle pût la remettre au prêtre qu'elle avait averti. Alors, pendant la dernière maladie, on lui a montré le calice d'un jeune prêtre qui venait de dire sa première messe, puis elle pose un geste étonnant, un peu naïf et très beau. Elle regarde l'intérieur du vase sacré, là, puis elle dit « J'aimais à me refléter ainsi dans les calices quand j'étais sacristine. Je pensais qu'ensuite le sang de Jésus tomberait là, sur mon visage, là où mon visage s'était reproduit et purifierait mon âme. » En nous dévoilant un peu le fond de son âme, donc Thérèse laisse entendre que son désir du sacerdoce prend la forme de deux objectifs. Le premier est subordonné au second. C'est porter Jésus dans ses mains, le donner aux âmes. Puis d'après la construction de la phrase qui pousse tout le dynamisme de son désir, là, Thérèse voudrait avoir Jésus dans ses mains et le porter aux âmes. Et le premier but n'est qu'un moyen pour atteindre le second, avoir Jésus pour le donner. Avoir Jésus pour le donner. Je crois que ce désir habite tous les séminaristes, hein, puis les jeunes prêtres, et tant de prêtres tout le long de leur vie jusqu'à l'âge de 95 ans. C'est avoir Jésus pour le donner. Elle exprime très bien ça. Le prêtre lui apparaît comme celui qui a Jésus hostie dans les mains et qui le porte à ceux qu'il demande. Dans ce rite tout à fait sacré, sous cette écorce, dirait Saint Jean de la Croix, se cache un autre sens, hein, véritable et spirituel. Thérèse voudrait disposer à tel point de Jésus, c'est-à-dire l'aimer tellement, qu'elle puisse le faire entrer dans l'esprit puis le cœur de tous les hommes, de toutes les femmes. Sa conception du prêtre est-elle assez orthodoxe? Jamais Thérèse ne met en doute les notions sur le sacerdoce qu'elle a apprises au catéchisme. Elle n'exagère pas. Elle ne passe pas outre aux lois de l'Église. Le 15 août 1892, d'ailleurs, elle écrivait à Céline, sa sœur, « Notre mission, comme carmélite, est de former des ouvriers apostoliques qui sauveront des milliers d'âmes dont nous serons les mères. » Elle voudrait être mère des prêtres, mère de tout le monde. C'est un cœur de mère qui l'habite, comme Dieu a un cœur de mère. Tant que nous sommes sur la terre, elle nous rappelle que le prêtre doit être, comme elle le dit, et je cite, « plus pur que le cristal, un apôtre tout de feu, formé à l'école de Marie, dit-elle, dans les délicatesses de son amour virginal à l'égard de Jésus. » C'est de cette conception du prêtre admirable que Thérèse, l'enfant Jésus, tire sa vénération pour l'Eucharistie et vice-versa. Pour elle, tout se tient, et pour comprendre son amour pour l'Eucharistie, on peut dire que on peut se limiter à deux dates extrêmes, là. Avril 1896, puis la date de sa mort, 30 septembre de l'année suivante. Donc un peu plus d'un an. Ces dates-là indiquent une période de la vie de Thérèse, et la dernière, la plus importante, le jour de sa mort, c'est de beaucoup la plus douloureuse, mais aussi la plus lumineuse. Ces dates-là marquent le commencement puis la fin de l'agonie de Thérèse, dont je vous ai parlé, je vous rappelle encore, le 30 septembre, il y a un peu plus d'un mois. Et afin de rendre plus intelligibles certaines paroles de Thérèse, il est bon de connaître des usages des carmélites à la fin du 19e siècle. Savez-vous que le prêtre ne pouvait entrer dans le cloître, derrière la clôture, pour apporter la communion, que dans des cas très très graves? Alors, avant qu'elle ne soit, Thérèse, complètement immobilisée à l'infirmerie le 8 juillet 97, Thérèse pouvait être fatiguée au point de n'être pas capable de descendre à la messe et d'être confinée dans sa cellule. C'est vrai qu'elle était malade pendant plus d'un an, hein. Elle ne laissait donc entrer le prêtre que très rarement. Elle était pour être Thérèse pouvait être fatiguée, là. Elle ne pouvait pas aller à la messe. Et elle dit, on ne me croit pas aussi malade que je le suis. C'est plus pénible, alors, d'être privée de la communion, parce qu'elle sera privée de la communion. Alors, deux faits. On peut retenir deux faits également. Sa dernière visite au Saint-Sacrement, le 2 juillet 1897, quelques mois avant sa mort. Sa dernière communion, le mois suivant, pour la conversion du fameux père Hyacinthe, un carme qui avait défroqué malheureusement et qui, tout en gardant de bonnes idées, en avait des moins bonnes. Ce sont des exercices tous les deux incomparables de sa foi et de son amour envers Jésus dans l'hostie. Retournons deux secondes en arrière. Pour elle, la première communion, c'est l'un des événements majeurs de sa vie. Ça a illuminé toute son enfance et sa jeunesse comme, chose surprenante, la vie d'une grande partie des gens jusqu'à tout récemment, et on le lit dans la vie des athées et des agnostiques qui racontent que l'un des plus grands moments de leur vie, c'était leur première communion quand ils étaient jeunes. C'est curieux, hein? Et alors, ça a illuminé son enfance. Ça a illuminé sa vie. Ça adoucit aussi ses dernières semaines. Elle appelle ça le beau jour entre les jours. Et le 6 juin 1897, elle déclare, donc quelques mois avant sa mort, que j'étais heureuse d'avoir le bon Dieu dans mon cœur. J'ai pleuré comme au jour de ma première communion. Le 12 juin 97, 6 jours plus tard, donc demain, je ne ferai pas la communion. Étant de petites filles, elles recevront le bon Dieu pour la première fois à l'église Saint-Jacques. Et elle revoit le joyeux réveil de l'aurore, le baiser d'amour, comme elle dit, qu'elle reçut de Jésus, et que les petites filles de Lisieux vont recevoir à leur tour. À la fin du mois de juillet, donc un mois et demi plus tard, elle écrit, « Depuis ma première communion, depuis que j'avais demandé à Jésus de changer pour moi en amertume toutes les consolations de la terre, j'avais un perpétuel désir de souffrir. » Et sa première communion, donc, est associée au désir de la souffrance, un désir qui ne la quittera quand même jamais plus. À l'exemple de Jésus, elle dit, « J'ai tellement désiré manger cette Pâque avant de mourir. » Vous savez, Jésus, elle répète les mêmes paroles que Jésus. Dès son enfance, elle a compris qu'en fait, c'est par la souffrance qu'elle pourra sauver les âmes. Une souffrance remplie d'amour, hein, je tiens à insister parce que là, elle ne le dit pas, mais c'est toujours rempli d'amour. C'est l'amour pour elle qui remplit tout. Hein. Elle va le dire à un moment donné, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, alors je serai tout. Hein. Faut jamais oublier cette parole fondamentale. Le désir de recevoir Jésus s'était éveillé en elle dès qu'elle avait eu connaissance, on peut dire, du mystère de l'Eucharistie. C'était un torrent qui s'amplifie constamment. C'est un désir qui n'a jamais cessé de croître dans son cœur. Son dynamisme n'est en rien arrêté, on peut dire, par l'épreuve de la foi. À un moment donné, on dirait qu'elle perd la foi. Si Thérèse ne le manifeste là que d'une manière discrète, c'est pour pas faire de la peine à son entourage. Alors Thérèse s'entretient avec sa sœur, la mère Agnès, du bienheureux Théophane Vénard. Théophane Vénard, c'est un martyr, hein, des missions étrangères de Paris. On peut voir ça à Paris, près de la chapelle de la médaille miraculeuse. Là, il y a la maison des missions étrangères, il faut aller voir ça. Et ce pauvre Théophane Vénard n'avait pu recevoir la communion au moment de la mort. Par cette pensée, Thérèse pousse un grand soupir. Hein, quelle souffrance pour lui de ne pas recevoir Jésus à cette heure-là. Je le comprends. Et peut-être que je vais connaître la même épreuve, moi qui aime tant à recevoir Jésus. Et ce désir de la communion reste évidemment dans les limites de l'obéissance. Vous ne me compreniez pas quand j'insistais, mais c'était parce que je sentais bien qu'on essayait d'influencer notre mère. Je voulais dire toute la vérité à notre mère afin qu'elle décide d'elle-même. Je vous assure que si d'elle-même elle m'avait demandé de ne pas aller à la messe, à la communion, à l'office, j'aurais obéi avec une grande docilité. L'obéissance l'amène jusque-là. Une obéissance responsable quand même, qui sait prendre une décision quand la volonté de la prière n'est pas connue. Mais son obéissance va jusqu'à l'héroïsme. Elle dit un jour qu'elle vint à la messe et communia, bien qu'on lui eût levé depuis peu un vésicatoire. Je me mis à pleurer de ne plus aller aux heures. Je la suivis dans sa cellule et je la verrai toujours assise sur son petit banc et le dos appuyé sur la pauvre cloison de planches. Elle était exténuée, me regardait d'un air triste et si doux. Mes larmes redoublèrent et devinant combien je la faisais souffrir, je lui en demandai pardon à genoux et elle me répondit simplement « Ce n'est pas trop souffrir pour gagner une communion. » Mais répéter la phrase, ce n'est rien. Il faut l'avoir entendu. Avoir entendu l'accent. C'est ce que dit sa sœur. Ce désir, donc, de la communion s'actualise. Ça s'épanouit au moment de la communion. Thérèse apporte la même application à la dernière préparation, à la grande communion finale. On peut simplifier à l'extrême la poésie « Pourquoi je t'aime, ô Marie, c'est si beau cette poésie ». C'était la dernière qu'elle a composée en mai 1897. La certitude avec laquelle son pauvre langage essaie de traduire cette intimité vraiment vivante là, entre la Sainte Vierge et elle, Thérèse, ce qui en vérité aussi s'opère en elle quand Jésus vient dans son cœur. Cette certitude l'apaise, se renouvelle à chaque communion. Pendant la nuit du 12 juillet, elle compose très facilement donc ce couplet. « Toi qui connais ma petitesse extrême, tu ne crains pas de t'abaisser vers moi. Viens en mon cœur, ô blanche hostie que j'aime. Viens en mon cœur, il aspire vers toi. Ah, je voudrais que ta bonté me laisse mourir d'amour après cette faveur. Jésus, entends le cri de ma tendresse. Viens en mon cœur. » Et cette strophe est la dernière composée par Thérèse. Elle exprime d'une manière absolument transparente et puis toute simple toute l'âme de Thérèse de l'Enfant Jésus en face de l'Eucharistie. Thérèse n'est qu'un désir de l'hostie. Et par l'hostie, un désir de l'amour de Jésus qui l'emportera enfin comme tout un joyau. Ce désir la pousse d'une manière ordinaire, au fond, à saisir les occasions du moment, à veiller chaque fois sur l'ultime préparation à la mort. Elle sait aussi que la Sainte Vierge est présente et s'occupe des derniers préparatifs. Elle dit, « Je désirais souffrir et je suis exaucée. J'ai beaucoup souffert depuis plusieurs jours. Un matin, pendant mon action de grâce, j'ai ressenti les angoisses de la mort. Et avec cela, aucune consolation. » Alors, le 30 juillet, 2 mois avant sa mort, elle reçoit, dans l'après-midi, le viatique et le sacrement des malades, donc elle reçoit la communion. À peine avait-elle fait une courte action de grâce que plusieurs sœurs sont venues lui parler, et le soir, elle s'en plaint à sa sœur, mère Agnès. « Comme on est venu me déranger après la communion, on m'a regardé sous le nez. Mais pour ne pas m'agacer, j'ai pensé à notre Seigneur, qui se retirait dans la solitude pour prier sans pouvoir empêcher le peuple de lui suivre. Et il ne le renvoyait pas. » Alors elle imite en tout point Jésus. C'est aussi au cours d'une action de grâce que Jésus fait comprendre à Thérèse à quel point elle est identifiée au péché des hommes. « Quelle est grande la grâce que j'ai reçue ce matin au moment où le prêtre commençait le confiteor, le début de la messe, quoi. » Et que toutes les sœurs ont continué. C'est vrai qu'on récitait aussi le confiteor avant la communion, encore une deuxième fois. « Je voyais là le bon Jésus tout près de se donner à moi. » Et cette confession, si je confesse à Dieu, confiteor, hein, je le dis pour les jeunes, hein, et cette confession me paraissait une humiliation si nécessaire. « Oh oui, me disais-je, on fait bien de demander pardon pour moi. Je me sentais comme le publicain, comme une grande pécheresse. Je trouvais le bon Dieu si miséricordieux. Ah, j'ai bien manqué de pleurer, et quand la Sainte Hostie était sur mes lèvres, j'étais bien ému. Je crois que les larmes que j'ai versées étaient les larmes de contrition parfaite. Ou comme il est impossible de se donner soi-même à de tels sentiments, c'est le Saint-Esprit qui les donne, lui qui souffle où il veut. » Or, on peut se rappeler, le 9 juin précédent, elle a dit qu'elle était assise à la table des pécheurs, hein? C'est depuis avril 96. Elle partage avec les pécheurs le pain de la douleur, à cette table remplie d'amertume, dit-elle. Elle est prête à y manger seule le pain de l'épreuve. Elle dit, je me sentais une grande pécheresse en face de Jésus qui se donne à elle dans la communion. C'est un mystère de miséricorde et d'amour. Elle est pleine de tendresse. Elle dit à un moment donné, mourir d'amour après la communion, c'est trop beau pour moi. Mais elle a l'art, pour détourner la conversation et pour étouffer ce cri d'amour, elle change la conversation parce qu'elle ne veut pas quand même. Trop, comme on pourrait dire, avoir l'air d'une sainte. Ça la gêne, et elle a bien raison. Puis la dernière visite au Saint-Sacrement est dans ces longues semaines d'agonie, les deux faits qui semblent marquer la vie eucharistique de Thérèse, sa dernière visite au Saint-Sacrement, sa dernière communion. La dernière fois, semblait-il, que Thérèse, à distance, est mise en face du Saint-Sacrement. Ma dernière visite à Jésus-Hostie, la dernière d'une liste très longue, qui a été inaugurée lorsque son père, Monsieur Martin, a conduit sa petite reine, comme il l'appelait, dans les sanctuaires de Lisieux, puis prolongée si souvent dans l'anonymat, lorsque Thérèse Carmélite se rendait au cœur, au milieu de quelques sœurs, en dehors des actes communautaires, et surtout le soir après complis, les contemplatifs dans les monastères, souvent après le dernier office dans la noirceur, vont dans leur stall s'agenouiller, s'accroupir, pour vénérer le Saint-Sacrement. Et la porte du cœur est ouverte, et de l'endroit où le lit pliant a été roulé, c'est ça sa dernière visite. Thérèse n'aperçoit même pas le tabernacle, il est caché par la grille, il y a le rideau, il y a le volet en bois, conformément aux habitudes de l'époque. Et Thérèse y est habituée. Ça la fâche pas. Son regard, comme elle dit, traverse tous les obstacles. Canonique, comme elle dit. Son regard atteint le tabernacle. Son regard traverse la porte en acier. Traverse le voile qui est sur le ciboire. Traverse même le ciboire. Et là, son Jésus est là, présent, brillant de blancheur. Elle priait avec un regard si profond vers la grille, comme on dit, c'est ce qu'on rapporte. Comment ne pas désirer l'imaginer là, dans cette prière, la surprendre un peu? Mais elle n'en a pas parlé pour cause. Quelques faits de sa vie passée peuvent nous mettre sur la voie. À 5 ans, elle prend part à la prière du soir qui rassemble la famille autour de la statue de la Sainte Vierge. La petite reine était toute seule auprès de son roi, son père, n'ayant qu'à le regarder pour savoir comment prient les saints. Elle regardait son père. Il jouait pas aux saints. Il y a des gens qui vont dire qu'il jouait aux saints, mais non. C'était un saint. Comment ne pas être frappé par la limpidité de ce regard? Ça établit une communication vivante entre le père et sa petite fille. La prière de M. Martin passe dans l'âme de la petite Thérèse Martin. L'infirmière visitait Thérèse dans les dernières nuits de septembre 1897. À l'une de ses visites, elle trouve Thérèse agonisante, les mains jointes et les yeux levés au ciel. Elle lui dit, « Que faites-vous donc ainsi? Faudrait essayer de dormir. » Et Thérèse de l'enfant Jésus répond, « Je ne puis pas, ma sœur, je souffre trop, alors je prie. » Et que dites-vous à Jésus? « Je ne lui dis rien, je l'aime. » « Je ne lui dis rien, je l'aime. » Le 30 août 1897, un mois avant sa mort, Thérèse, dans son lit de malade, regarde vers le tabernacle. Elle est anéantie par la souffrance dans son pauvre corps, au point d'être incapable de prier au sens habituel du mot. Elle aime. Le seul langage que Dieu entende, a déjà dit Saint Jean de la Croix, est le silencieux amour. Dans cette solitude, la seule prière qui fleurit est l'amour seul à seul. Sans aide, sans autre compagnie que l'Esprit Saint lui-même, il prie dans le cœur de Thérèse. L'Esprit prie. Et comme dit Saint Paul si bien dans l'Épître aux Romains, il prit en des gémissements inexprimables. Les forces de Thérèse, de l'enfant Jésus, diminuent, et Mère Agnès note les communions du 12, 14, 15 et 17 août, le mois qui précède sa mort. Ces communions s'égrènent, on pourrait dire, comme un compte à rebours, et le 19 août, c'est la dernière communion. C'est raconté très brièvement. Thérèse faillit se trouver mal. En entendant psalmodier, même à voix basse, le Miserere, le psaume 50, elle me dit ensuite, en versant de grosses larmes, « Je vais peut-être perdre mes idées. Oh, si on savait ce que c'est que la faiblesse que j'éprouve. Cette nuit, je n'en pouvais plus. J'ai demandé à la Vierge de me prendre la tête dans ses mains pour que je puisse la supporter. » Or, à l'heure où elle écrit ces lignes, Mère Agnès comprend-elle que Thérèse vient de communier pour la dernière fois. Tu le sais, au soir de cette vie, je veux offrir des prêtres au Seigneur, ainsi ce qu'avait écrit Thérèse dans ses poèmes. Le 20 août, le lendemain, il se passe une des scènes les plus bouleversantes de la longue agonie de Thérèse, et qui est également un des sommets les plus lumineux dans sa vie eucharistique. Quand on en lit le récit dans le carnet jaune puis le carnet vert, hein, à un moment donné, c'est nous ne savions à quoi attribuer ce chagrin et nous la conjurions de nous dire « Je pleurerai trop si je vous racontais tout de suite mes peines et je suis si oppressé que j'étoufferai certainement. » Elle nous fit signe de ne plus lui dire une seule parole, ni même de la regarder. Au bout de plusieurs heures, étant resté seul près d'elle, j'osai m'approcher, et je lui dis que j'avais très bien deviné le sujet de ses larmes, je la consolais de mon mieux, elle semblait prête à mourir de douleur. Jamais je ne l'avais vue dans de semblables angoisses. Elle ne fit plus la communion jusqu'à sa mort. Alors que se passe-t-il? Thérèse est assez lucide pour comprendre qu'elle ferait mieux de ne plus communier. Personne ne lui en donne même le conseil. Il faut qu'elle en prenne toute la responsabilité, hein, seule. Il faut qu'elle renonce à recevoir Jésus. Aucun autre sacrifice ne pouvait lui être plus pénible. Elle est au pied du mur. Hein. Thérèse ferme les yeux et accepte. Et à partir de ce moment, et si l'on s'en tient au carnet jaune de Mère Agnès, Thérèse ne parle plus de la communion, n'exprime aucun regret, aucun désir. À deux reprises seulement, elle fait une brève allusion à la messe. Quel silence extraordinaire de sa part, quel est admirable. Sa vie eucharistique est donc terminée? Pas du tout. Elle en est à la dernière étape, la plus secrète, la plus belle. Pour l'entrevoir un peu, il faut relire dans « La passion de Thérèse de Lisieux » de Mgr Guy Gaucher, les pages consacré aux dernières semaines du mois d'août et au mois de septembre 1897, l'envahissement total par la tuberculose, des poumons, des intestins, la menace de gangrène, etc., le paroxysme de la souffrance corporelle, les attaques les plus violentes du démon aussi qui déferlent avec une rage accrue et jusqu'à la veille de la mort sur une pauvre jeune agonisante qui paraît sans défense. En même temps, Thérèse de Lisieux affirme la paix qui demeure en elle. Elle fait preuve d'une force que rien ne peut abattre. C'est là qu'on peut toucher à quel point elle est entièrement remise entre les mains de Dieu. C'est aussi l'heure où Thérèse parle plus longuement de la Sainte Vierge, avec un réalisme et une simplicité d'enfant. Oui, l'atmosphère est autre, et on dirait qu'avec l'aggravation générale des souffrances, là, chose mystérieuse, la paix, la force, la douceur deviennent plus perceptibles. C'est la mort d'une sainte. On a l'impression que Thérèse entre avec celle qui l'entoure dans un autre monde. C'est l'aube de l'éternité qui se lève. Et Thérèse demeure privée de la communion. À s'en tenir aux apparences, la vie eucharistique de Thérèse est achevée depuis le 19 août. Et si c'était au-delà des paroles et des gestes, si c'était enfin, disons, la réalisation du désir de toute sa vie, c'est-à-dire l'admission mystérieuse que la première, l'unique, l'éternelle communion du ciel c'est celle-là qu'elle veut. Dans ce que Saint Jean de la Croix appelle la nuit apaisée, qui laisse deviner l'éveil de l'aurore. Encore quelques jours et Thérèse va quitter la terre. Elle ne reçoit plus la communion, elle y a renoncé, semble-t-il. Mais jamais cependant elle n'a manifesté une paix plus souriante, une force plus humble, une joie plus communicative. Rappelons-nous que le 9 juin 1895, plus de 2 ans avant sa mort, en la fête de la Trinité, s'est passé de ce grand événement pendant la messe et ce désir qui explose brusquement et sous l'éclat d'une lumière puissante, d'une lumière divine, là, elle pénètre plus avant dans l'amour qui est au cœur de Jésus. Elle écrit « Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. » Depuis longtemps, elle avait compris Jésus, en particulier son amour. Et ce 9 juin 1895, il se produit en elle un éblouissement, et sous le choc de cette lumière, là, les désirs les plus secrets de Thérèse éclatent. « Jésus, mon époux bien-aimé, au jour de sa vie mortelle nous a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô mon Dieu. Plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. » Jusqu'ici, rien qui puisse nous surprendre. Ce qui suit n'a pas fini de nous émerveiller. « Ah, je puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, dit-elle. Restez en moi comme au tabernacle. Ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. » Elle sent en elle des désirs immenses. C'est la lumière de l'acte d'offrande qui est autre, hein. Le 9 juin 1895, les désirs de Thérèse concernent plus directement sa vie personnelle. En 96, Thérèse est comme fascinée par sa place dans l'Église, dans le cœur de l'Église, ma mère. « Je serai l'amour, alors je serai tout. » Ce que désire Thérèse dans la prière, c'est d'être plus unie à Jésus et par là devenir plus capable de l'aimer. Et ce 9 juin, ben, c'est un sommet dans la vie de la moniale. « Je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. » Si par faiblesse je tombe quelquefois, c'est bien toujours la même Thérèse qu'on entend, hein, et qui disait à l'âge de 3 ans, comme nous disions quand nous étions jeunes, on nous apprenait ça, « Je vous donne mon cœur, prenez-le s'il vous plaît. » Je me souviens encore des paroles, afin que jamais aucune créature ne puisse le posséder que vous seul, mon bon Jésus. Vive Jésus, Marie, Joseph dans nos cœurs. Les prières d'enfants qu'on récitait. C'est là le contexte immédiat, puis la première partie de l'acte d'offrande. « Je suis donc certaine, dit-elle, que vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô mon Dieu. Plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Je sens en mon cœur des désirs immenses, et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant? Restez en moi comme au tabernacle. Ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants. Des méchants. Et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toutes choses en lui-même. » Voici de belles prières de cette Thérèse, décédée le 30 septembre 1897 et devenue le 19 octobre dernier docteur de l'Église.